lorsqu'on vient prêcher la parole, on prend du poids ici, hein? On nous met du méthane un peu partout. Alors, même s'il y avait de grands vents, un grand vent de l'esprit, on resterait quand même sur place, je pense. Salutations fraternelles à tous et à toutes. Et comme il était dit, je vous le redis à nouveau, une bienvenue chaleureuse et cordiale à l'Église réformée baptiste de la Trinité à Montréal. C'est une belle journée. C'est une grande journée. D'abord, c'est la commémoration de la résurrection. La résurrection du Christ Jésus, c'est un événement très central dans le projet de rédemption de Dieu. En même temps que pour nous aujourd'hui, ça coïncide, si vous me passez le verbe, avec une autre résurrection ou un autre témoignage de résurrection, à savoir celui de Nelly, qui va venir professer effectivement sa résurrection en Christ Jésus. Il y a ce lien-là à faire entre les deux, entre la résurrection et le baptême. On se fait baptiser pour une seule raison, que le Christ est ressuscité et qu'on veut devenir partie prenante, qu'on veut nous aussi devenir membres de cette résurrection-là en lui. Et c'est bien ce que nous exprime le baptême, de par son rythme même, qui nous dit que nous sommes devenus une même plante avec le Christ. C'est une belle expression. Et c'est bien ce qu'on veut signifier également avec l'eau. On n'est pas en train de faire tout un plat, de se casser la tête pour trouver des contenants d'eau. Il y a une raison pour laquelle on baptise des gens dans l'eau. Rappelons-nous que Jean-Baptiste baptisait un endroit où il y avait beaucoup d'eau, parce qu'on baptisait effectivement par immersion. Que symbolise le baptême d'eau pour les chrétiens? Simplement l'ensevelissement avec le Christ, la mort avec lui, hein, au péché, et la résurrection en nouveauté de vie avec lui. C'est un très, très beau symbolisme. Il y a des grâces là-dedans. On va en parler un peu plus tard. Le baptême ne sauve pas, mais il est très important, comme tous les moyens de grâce, comme tous les sacrements. Donc, le baptême, c'est le témoignage que je suis devenu une même plante avec le Christ. Ce qu'on va discuter aujourd'hui, on vient de le chanter en quelque sorte. Que ce triste monde. Est-ce que quelqu'un va contester cette phrase-là? Est-ce que c'est un monde joyeux, un monde allégorique? Hein? Non, c'est un monde en deuil, un monde confus, un monde très triste. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu. Ô Bible, et réponde à l'appel de Dieu. Il y a une seule réponse à donner à Dieu, c'est de venir à lui dans l'humilité et dans la soumission à sa divine gouverne. Le baptême, donc, nous fait professer ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. On a coutume de dire, même dans une autre tradition, mais on le dit dans un sens un peu différent, que c'est l'expression d'une grâce intérieure, hein, qui se manifeste extérieurement, en quelque sorte. L'apôtre Pierre nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui un tout petit peu dans le texte que j'ai choisi. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne conscience? Ça peut en dire beaucoup, avoir une bonne conscience. Les gens vont dire, ma conscience ne me condamne pas, j'ai la conscience en paix là-dessus. On peut rationaliser jusqu'à un certain point notre conscience. Mais que veut dire avoir une bonne conscience? Et le texte qui m'est venu à l'esprit, c'est un texte qui est très, 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 très connu. Puis en plus, le Seigneur nous a fait la grâce de l'interpréter. Alors, il m'a sauvé beaucoup de travail, je n'aurais pas à le faire. Tout ce que j'aurais à faire, c'est un commentaire ici et là pour faire mettre de l'avant, n'est-ce pas, certaines vérités fondamentales qui nous sont données dans ce texte-là. On va le lire ensemble, si vous voulez. C'est dans l'Évangile selon Luc. C'est au chapitre 8, les versets 4 à 15. Et comme j'étais un peu dans la facilité, si vous me passez l'expression, j'ai choisi également un titre de prédication qui est un peu cliché. C'est un peu cliché, mais il véhicule une vérité. J'ai choisi le cœur du problème, c'est le problème du cœur. On connaît bien l'expression, et c'est vraiment une réalité fondamentale. Le cœur du problème, c'est toujours le problème du cœur. Donc, Luc chapitre 8, les versets 4 à 15. Luc chapitre 8, je suis dans Jean, voilà. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » On ne s'arrêtera pas nécessairement sur cette réalité-là aujourd'hui. On va s'arrêter uniquement sur les quatre terres, ce qui correspond à notre thème d'aujourd'hui. Verset 11. « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Seulement la quatrième terre est appelée une bonne terre, et ça prend une bonne terre pour porter du fruit. Que le Seigneur puisse donc bénir ces quelques paroles que nous allons méditer ensemble aujourd'hui avant de passer au baptême de Nelly. On retrouve donc le Seigneur ici en présence d'un très, très large auditoire. Généralement, on se réjouit toujours lorsqu'il y a un large auditoire. On s'est dit, ben là, il y a quelque chose qui se passe, il va y avoir un réveil. Hein. Mais c'est pas toujours le cas, loin de là, parce que les larges foules ne veulent pas nécessairement dire que l'œuvre de Dieu se fait. Tous ces gens-là qui étaient réunis autour de Jésus venaient pas nécessairement pour entendre son enseignement et parce qu'ils avaient confiance en lui. Certains pouvaient venir par curiosité, d'autres pour s'enquérir, d'autres pour quelque autre raison que ce puisse être. Quoi qu'il en soit, il y avait une très grande foule là. C'est facile de remplir une église, dit-on. C'est facile de remplir avec toutes sortes d'éléments, avec toutes sortes de divertissements, avec toutes sortes de je ne sais trop quoi, et de faire en sorte qu'on attire les gens par les passions qui les animent et on remplit une église. C'est ce qui faisait dire au grand prédicateur baptiste Charles Spurgeon, il faisait bien la nuance lorsqu'il disait « nourrir les brebis et non pas divertir les boucs ». L'église est là pour nourrir les brebis. Le rôle des prédicateurs de la parole, c'est de nourrir les brebis. Le divertissement des boucs, le monde s'en charge. Christ, donc, était bien conscient que tous n'étaient pas venus pour entendre son enseignement. Hein? Jésus, d'ailleurs, était un pédagogue assez extraordinaire. Hors pair, dirais-je. Il utilisait un langage très imagé et ses paraboles en sont sûrement de très, très, très beaux exemples. On se demande parfois si Jésus aurait bien cadré dans un contexte réformé baptiste. On est parfois, comme réformé baptiste, quand on a une prédication toute simple, on est un peu gêné. Parce qu'on a l'impression que pour être réformé, il faut être compliqué. On ne pouvait pas être plus simple que le Seigneur Jésus. Surtout avec ses paraboles qui étaient tellement accessibles, qui parlaient du quotidien, qui étaient les images qui frappaient l'imaginaire des gens, de sorte que le message ne pouvait être manqué. Une parabole, c'est une histoire tirée de la vie réelle ou d'une situation réelle et qui sert à illustrer une vérité morale ou une vérité spirituelle. Alors, on a ici ce que nous appelons une parabole du royaume. Et c'est celle du semeur. Et cette parabole-là, elle nous est présentée donc dans les versets 4 à 8 et elle nous est expliquée dans les versets 11 à 18. Ça, c'est rare que les paraboles nous sont expliquées, mais celle-là, elle l'est. Elle est très clairement expliquée d'ailleurs. C'est une parabole qui traite de la manière dont la parole de Dieu, dont le message de Dieu est reçu. Alors, ce n'est pas uniquement une parole pour les gens qui sont à l'extérieur quand on fait de l'évangélisation. C'est une parole pour les gens qui sont aussi dans l'Église et qui écoutent cette parole-là semaine après semaine. Comment est-ce que je reçois la parole de Dieu? Et tout cela, nous dit le texte que nous avons aujourd'hui, est dépendant de la disposition, de la posture du cœur. Comment est-ce que je reçois la parole? Ça veut dire que le texte d'aujourd'hui, il est pour moi. Il est pour tous et chacun d'entre nous. Comment est-ce que j'écoute la parole? Qu'est-ce que je fais lorsque j'écoute un message? Est-ce que je dis c'est bon pour l'autre, c'est bon pour lui, c'est bon pour elle, ou si c'est bon pour moi? Et qu'est-ce que je vais faire avec ce message-là? C'est pas une conférence à laquelle je viens assister. C'est une parole de Dieu qui m'est livrée et qui m'interpelle et qui m'invite à vivre selon le plan du Seigneur. Et l'image, elle est très belle, elle est très bien choisie. Un semeur jette la semence en terre. Il le fait comment? Indifféremment? Non, il le fait avec attente. Lorsqu'on jette la semence, on s'attend à ce qu'il va se produire un fruit, à ce qu'il va sortir quelque chose dedans, parce que la semence, est, à quelque part, elle est vitale, voyez. Et il sème sur tout le terrain, sachant que plus il met des graines en terre, plus il est en droit de s'attendre à une mission abondante. Il sait par ailleurs que la puissance est dans la semence et non dans le semeur. Bien sûr que le semeur a une certaine importance, mais la puissance n'est pas en lui. Le semeur ne se dit pas, ben, lorsque je vais la mettre en terre, je vais aller avec une petite courbe, là. Peut-être qu'elle va pénétrer plus creux et produire plus de fruits. Ou je vais ajouter, je ne sais pas moi, quelque chose pour la rendre plus puissante, un petit peu de brindille, un peu de fertilisant, je ne sais quoi d'autre. Non. La semence, elle est porteuse de vie en elle-même. C'est pourquoi j'aime à dire que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Nous lisons d'abord au verset 5, « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait la semence, ou comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. » Notre société n'a pas inventé le cœur endurci à la prédication de la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. La situation était exactement la même au temps du Christ et elle est exactement la même de toute époque depuis la venue sur terre de l'humanité, depuis la naissance, depuis la création d'Adam. Et ce sol s'est endurci à force d'être piétiné au fil des ans. Et bien sûr, en raison de cet endurcissement-là, la semence qui y tombe demeure exclusivement en surface, ce qui donne un très beau jeu aux oiseaux de venir et de s'y nourrir joyeusement. La semence ne peut pas pénétrer, elle demeure totalement en surface et les oiseaux ont beau jeu. C'est ce que le Seigneur utilise comme comparaison pour dire que le malin vient faire son œuvre et une fois que cette parole-là a été semée, il n'y a pas de réponse. Immédiatement, l'ennemi vient avec toutes sortes de manigances là et la parole est disparue comme si elle n'avait pas été reçue ou entendue. C'est la première terre où la semence est déposée. Et c'est une des résultantes qu'on voit encore et encore. Des gens exposés à la prédication de la parole. D'ailleurs, on voit ça dans les assemblées, on voit ça dans les foules. La parole de Dieu est prêchée, une grande partie demeure complètement indifférente, d'autres sont en larmes, hyper interpellés, touchés. Il y a une différence dans l'œuvre que Dieu fait dans le cœur des auditeurs. Donc, c'est le type de personne. Un cœur endurci, c'est un cœur qui pêche toujours un petit peu plus, et c'est un cœur qui pêche un petit peu plus délibérément, d'ailleurs. C'est le type de personne décrite dans Romains 1. J'ai dit dans Romains 1 qu'il parle de ceux qui gardent la vérité captive et qui plongent toujours plus dans l'ignorance spirituelle et dans la dégradation qui suit inévitablement. Remarquez qu'ils ont un discours. Tous ces gens-là qui ne reçoivent pas la parole ne sont pas bouche bée. Ils ont un discours, on les a entendus, il y en a qui sont extrêmement communs. « Ah, moi je vais à l'église quand j'en ai besoin », vous avez déjà entendu cela? Comme si l'église est un produit de consommation, quand j'en ai besoin, je vais le chercher, puis quand je n'ai plus besoin, voilà, j'oublie que l'église existe, n'est-ce pas? « Moi je suis croyant, mais non pratiquant », ça c'est une des belles, hein? Quelqu'un disait un jour, pour se moquer de cela, « Moi je suis végétarien, mais je ne pratique pas. » Alors, croyant et non pratiquant, on repassera. Un autre va dire, moi j'ai ma propre spiritualité et c'est très différent de la religion. Quelqu'un va dire, moi je ne fais pas reposer ma confiance sur un vieux livre écrit par des hommes. Vous avez déjà entendu? Sur quoi repose notre confiance si ce n'est pas sur la parole de Dieu? Sur ma raison dépravée? Sur la raison dépravée des autres? Gloire à Dieu qui nous a laissé un message objectif, qui nous permet d'avoir une référence sûre et certaine. D'autres vont emprunter à Karl Marx. Karl Marx disait « La religion, c'est l'opium du peuple. » D'autres l'ont québécisé en disant « La religion, c'est la béquille pour les faibles. » Et on pourrait continuer encore à l'infini, n'est-ce pas, toutes ces théories qui se sortent là pour tenter de justifier la position de ces gens-là. Le fait demeure, c'est que un cœur endurci, c'est un cœur qui a été de par trop piétiné par toutes sortes de philosophies. Un cœur aussi endurci par l'égoïsme. Il faut penser que nous venons au monde altruiste, hein? Nous sommes fondamentalement, depuis Adam, des gens égoïstes. Alors, c'est un cœur endurci par l'égoïsme, un cœur endurci par l'amour du péché. Il est devenu insensible, la prédication de la parole de Dieu n'a plus d'impact. Sur une telle personne, elle est devenue, vous connaissez l'expression, teflon. Qu'est-ce que ça fait un teflon? Il n'y a rien qui colle dessus. Voilà. Alors la parole vient, mais elle ne reste pas. Le deuxième type de sol dans lequel tombe la semence, vous est décrit au verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. C'est une belle image, c'est tellement beau. On peut déjà voir cela, là. On peut déjà voir la situation dans nos esprits. Il est évidemment ici parlé de superficialité. Jésus fait ici mention d'un sol pierreux, mais au-dessus des pierres, il y a une petite couche de terre. Il y a un petit peu de terre en surface. Mais comme il n'y a pas de profondeur, qu'est-ce qui arrive? Ça pousse très vite. Vous mettez la semence et il faut que ça sorte quelque part. Ça ne peut pas aller chercher des racines, donc ça sort par le haut, hein? Alors ça pousse très, très vite mais il n'y a pas de racine qui permettrait d'aller chercher l'eau plus profondément en terre. Et dès que les racines veulent pénétrer la terre pour aller chercher l'eau dont la graine a tellement besoin, ben elle se heurte encore une fois à ces pierres-là. Et il n'y a pas de fruit qui est porté. L'image, bien sûr, est simple à comprendre. Nous avons ici quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui démontre aussitôt un grand enthousiasme. Avec les années, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avec les années, on est toujours très content quand les gens manifestent de l'intérêt pour la parole de Dieu. Mais les enthousiasmes délirants, là, on apprend à dire, on va attendre un peu pour voir s'il y a une réalité là-dedans. Hein? Parce que ça peut effectivement être une semence qui tombe sur un sol pierreux avec juste une surface. Et ces gens-là, quand ils reçoivent la parole, c'est extraordinaire. Ils sont très, très excités, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien qui existe que cette parole-là. Ils vont fréquenter 2-3 églises parce qu'ils ont tellement besoin d'entendre la parole. Puis ils vont fréquenter des chrétiens, puis ils cherchent constamment à parler du Seigneur. Alléluia! Sauf que dans leur cas, ils ne cherchent pas nécessairement à parler pour leur édification, mais étant donné qu'ils n'ont pas de racines dans l'eau, il faut les arroser de l'extérieur. Et c'est précisément cet arrosage-là qu'ils cherchent et dont ils ont constamment besoin. Mais ça ne dure pas très, très longtemps. Chaque fois qu'il y a besoin d'aller chercher quelque chose, là, plus profondément, hein, dans le sol, ces racines-là ne vont jamais très creuses parce qu'elles se butent sur ce même vieux sol pierreux. Le troisième type de sol, c'est celui qui est rempli de ronces et d'épines. Et ces dernières vont étouffer la semence qui a été jetée. Le verset 7 nous dit « Une autre partie tombant au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. » Excusez-moi. Depuis la COVID, il est resté un petit fond de je sais trop quoi. Alors. Oui, ces gens-là qui reçoivent la parole dans les ronces et les épines, on se dit, c'est un peu normal. Il y a un combat dans la sanctification. Il y a vraiment de la vie, là, mais on voit que les victoires vont commencer à s'accumuler. On voit encore beaucoup, beaucoup de ronces et d'épines, mais on voit aussi que la semence semble vouloir prendre vie, semble vouloir commencer à se manifester. Ce n'est pas sans nous rappeler l'épisode du jeune homme riche. Qui ne rêve pas de rencontrer le jeune homme riche? On parle pour son argent, là. Mais on parle quelqu'un qui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de gens qui vous ont posé cette question-là? Non. 45 ans de ministère, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit « Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jamais on s'est posé cette question-là. Quelques-uns l'ont posé à Pierre, entre autres, à la prédication de la Pentecôte. Et ce jeune homme riche-là, qui sent qu'il est très béni, très confortable, très dans ses richesses, très bien installé, mais il y a le vide dans son cœur. Parce que tous ses trésors, toutes ses richesses, tous ses biens ne peuvent pas venir combler le vide qu'il a dans son cœur. Il vient voir Jésus, il vient voir la bonne personne. Et il lui a posé la bonne question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ce jeune homme-là? En bon évangélique, vous lui auriez dit, « T'as juste à croire à Jésus? » Il sera parti encore gros gens comme devant, heureux, en disant, « Je crois en Jésus. » Ça va beaucoup plus loin que cela. Quand on présente l'évangélisation, on n'est pas en train de présenter un évangile facile, quelque chose, passez-moi l'expression de « cheap ». L'Évangile, c'est extrêmement coûteux. On en célèbre la commémoration aujourd'hui, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Non, Jésus pointe d'abord son péché, parce qu'il n'y a pas de salut sans repentance. Et ça, bien-aimé, ça a été le combat de toute l'Église, et ça l'est d'une manière encore plus particulière aujourd'hui. On veut faire sauter la repentance. On parle beaucoup d'amour et on n'aura jamais assez d'amour dans l'Église. Mais l'amour se manifeste après que la repentance eut été signifiée. Aujourd'hui, il faut les aimer, il faut les entourer, il ne faut pas les condamner. On est rendu dans une extravagance, on est rendu dans un extrême qui est très sérieusement inquiétant. Il y a des livres qui sortent et qui en parlent beaucoup, quand on parle maintenant même d'accompagnement spirituel, qu'on appelait à l'époque le counseling, c'est encore ça. Il faut aimer. Bien sûr qu'on aime, mais il faut aimer comme la Bible aime. Il faut d'abord voir une repentance, une venue au Christ Jésus, et on accompagne, on a une très belle démonstration de cela avec le jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur, qui lui dit, « Oui, mais tes sous, ton argent, hein? Voilà. Et donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. » Le Seigneur n'avait rien à cirer avec l'argent du jeune homme riche, vous voyez. Il était simplement en train de lui montrer que c'était son idole. Et effectivement, il nous a dit que le jeune homme riche s'est détourné. Il s'est détourné. Et il est parti tout triste. C'est tellement triste, cette histoire-là, vous savez. Il vient à Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus l'aima. Jésus ne manque jamais d'amour, voyez. Jésus avait de l'affection pour lui. Il avait de la tendresse pour lui. Jésus voulait son bien. Mais voilà. Ça s'est terminé, passez-moi l'expression, à queue de poisson. Le point ici, mérite qu'on s'y arrête, parce que nous vivons dans une société d'abondance. Nous vivons dans une société de distraction et de richesse qui mettent une énorme pression sur nous, qui nous présentent de grandes exigences aussi. Notre richesse nous coûte très cher. Il faut noter que les ronces et les épines ne font pas immédiatement mourir la semence. Ça n'est pas du jour au lendemain. Ça se côtoie, ça se vit au quotidien. Il y a des combats et progressivement, les ronces et les épines prennent le terrain et finissent par étouffer la bonne semence. C'est avec le temps que les ronces et les épines l'emportent. Et c'est la biographie de plusieurs personnes qui ont fait profession de foi, mais qui n'ont pas persévéré. L'appât du gain. La mondanité, le jet-set, hein, les a amenés à négliger les moyens de grâce. Ils se sont éloignés de leur Église, abandonné la lecture de la parole, abandonné la prière, et leur supposée foi s'est retrouvée au rang des souvenirs. Et c'est aussi une mise en garde pour nous. La richesse n'est pas un péché, et la pauvreté non plus. Trois Jean, verset 2, nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Comme je dis souvent, la spiritualité ne consiste pas à être laid, pauvre et malade. On peut être laid, pauvre et malade. Ça peut être un statut que Dieu nous donne, mais ce n'est pas ça la spiritualité. Hein? Ce n'est pas cette espèce de renoncement obligatoire-là. L'avertissement a trait au danger que représentent les différentes conditions dans lesquelles nous nous retrouvons. L'une des plus belles prières de la Bible, à mon avis, se trouve au Proverbe 30, versets 8 et 9. Présentez-vous au dépanneur, présentez-vous dans les guichets de l'Auto-Québec, là, et là vous avez une ligne de gens qui espèrent donc pouvoir gagner le gros lot. N'est-ce pas? Et dès qu'il y a un tirage, on aimerait donc pouvoir gagner le gros lot. Et les gens qui n'ont pas le moyen vont aller jouer au bingo avec des jeunes, je ne sais trop quoi, là, on veut gagner le gros lot. Hein? C'est là une fin en soi. Écoutez bien la belle prière du sage Salomon au Proverbe 30, versets 8 et 9. « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, là, tout le monde va dire amen, hein? Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, oups! Alors, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la dépauvreté, et que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » C'est une prière qui connaît vraiment le cœur de l'être humain. On n'a pas cette force intérieure pour être capable de gérer ces grandes bénédictions-là, ces grandes grâces-là. On n'a qu'à regarder à Salomon qui a eu un si beau départ, hein? Bon, on ne dit pas qu'il a mal terminé, mais entre les deux, ça s'est détérioré un peu. C'est une lutte constante pour ne pas nous laisser bouffer par les soucis de la vie. C'est une lutte constante, donc, pour ne pas nous laisser bouffer par les soucis de la vie et par les richesses. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Voilà donc trois conditions de cœur qui aboutissent à l'échec. Trois conditions de cœur qui pourtant offraient des promesses. Trois terrains qui avaient reçu une semence. Qui plus est, ils avaient reçu une semence de vie. Une semence dans laquelle est la vie, une semence porteuse de vie. Mais voilà que ça aboutit à un échec. Ça aboutit à un naufrage spirituel. Et ça nous rappelle que nos propres expériences n'ont pas à nous décevoir pour autant. Parce que c'est effectivement ce qu'on voit au quotidien alors que le Christ construit son Église. Et sans vouloir aller trop loin et sans tomber dans les statistiques, hein, sur quatre professions de foi, ici, là, nous en avons trois qui sont temporaires. Alors on peut s'attendre parfois à ce que ça se produise également aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on devrait se décourager pour autant. Cependant, il y a un sol qui est appelé la bonne terre. Un sol qui a été fertilisé par l'Esprit de Dieu et là, la vie prend place et produit du fruit en abondance. Au verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous voyons ici que la seule évidence d'une véritable réception de l'Évangile, c'est le fruit dans la vie d'une personne. La confession de foi, c'est une chose, mais le fruit, c'est la chose. Beaucoup de gens professent le nom du Seigneur Jésus. Hein? Encore, oui, je crois à cela, comme disaient certains. Hein? Oui, je crois. Beaucoup de gens même viennent à l'Église avec une profession de foi du Christ Jésus, mais on ne voit pas les actions qui en découlent, on ne voit pas le fruit qui en découle. Et le fruit, c'est le fruit de l'Esprit. C'est l'amour. C'est la persévérance, c'est l'endurance, c'est l'acceptation des autres. C'est pas toujours être accroché dans les petits détails pour faire des plats. C'est ce désir de voir l'œuvre de Dieu avancer, quitte à faire certains, je dirais pas des compromis, mais en laisser passer certaines choses sur mes propres convictions parfois, si c'est pas cardinal, vous voyez. Alors c'est le fruit dans la vie d'une personne, un fruit de persévérance. Non pas que nous soyons sauvés par les œuvres. Est-ce que Jacques, le frère de Jésus, dans son épître, dit que nous sommes sauvés par les œuvres? Pas plus que Paul. Il est simplement en train de nous dire que les œuvres viennent rendre témoignage que j'ai une foi à salut. Hein? Luther disait, on est sauvé par la foi seule, mais la foi n'est jamais seule. C'est comme la vie. Si on a la vie, on a les signes vitaux quelque part. Lorsque nous recevons la vie, par définition, nous vivons. Si quelqu'un prétend avoir reçu la vie spirituelle, mais n'a aucun signe vital, il est clair que c'est un leurre. Donc, nous voyons que c'est le cœur ouvert qui reçoit la parole de Dieu et qui est sauvé. Ce n'est pas le cœur dur, le cœur partagé, le cœur superficiel, ou le cœur étouffé, trop enlacé par les soucis du monde et par la séduction des richesses. Ce qui nous amène à la grande question, quelle est la disposition de mon cœur? Comment est-ce que je vais répondre à Dieu? Est-ce que je suis réceptif à la vérité de Dieu? Est-ce que l'enseignement de la parole de Dieu pénètre mon cœur et porte du fruit? Il est tout à fait possible, parce qu'on n'a pas à répondre aux autres, on se répond à nous-mêmes, que notre réponse à ces questions soit non. Nous pouvons en effet admettre que notre cœur est endurci, ou superficielle ou extrêmement absorbée par la séduction des richesses et le souci de m'enrichir, il est vrai qu'on ne peut pas changer notre cœur. Pas plus que les sols pouvaient changer leurs conditions. Cependant, il y a quelqu'un qui peut le faire. Et c'est Dieu lui-même, par son Esprit Saint, qui peut venir transformer nos cœurs. Il est le grand jardinier des cœurs et il a le pouvoir et l'art de disposer les cœurs à la réception de sa semence. Écoutons les paroles qui nous sont laissées par le prophète Ézéchiel. Au chapitre 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le Seigneur n'est pas en train de nous dire, « Voici ce que tu dois faire. » Le Seigneur nous dit, « Voici ce que je vais faire. Si tu viens à moi, si tu acceptes de reconnaître que tu ne peux pas le faire par toi-même, si tu te donnes à moi que tu deviens mon disciple, voici l'œuvre que je vais faire. Enlevez ton cœur de pierre et mettre un beau cœur de chair, obéissant, qui aime son Dieu, désireux de suivre ses paroles. Libérez de notre propre endurcissement, de nos propres passions. Libérez de tout ce qui nous rend captifs et qui nous garde esclaves. » On pourrait pratiquement poursuivre un infini. Alors, on va revenir en terminant sur ce texte que nous avons lu au début du culte, Romains chapitre 6, versets 1 à 11. On sait que dans les chapitres qui précèdent le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, il nous est affirmé sans embâche que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il était clairement dit, enseigné, que personne ne peut recevoir de par ses propres forces la gloire de Dieu. Personne ne peut entrer à nouveau dans une relation favorable avec Dieu par ses propres forces en lui-même. Et que la seule voie de salut, c'est dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est dans cette perspective-là qu'au chapitre 6, nous retrouvons des mots importants. Nous retrouvons le mot « péché » et le mot « baptême » en Jésus-Christ. Nous retrouvons le mot « mort » et le mot « résurrection » en Jésus-Christ. Parce que mort, c'est ce que nous sommes, si nous ne sommes pas en Christ Jésus. Le symbolisme du baptême, c'est tout cela. Mort et ressuscité en Christ. Comme on le disait tout à l'heure, l'immersion dans l'eau correspond à l'ensevelissement et la sortie de l'eau correspond effectivement à notre résurrection en lui-même. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 3, verset 21, nous dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. » Dans ce texte-là qu'on a lu aujourd'hui, qu'on a médité un petit peu aujourd'hui dans Luc chapitre 8, on a vu ce qu'était une bonne conscience. Je nous la souhaite ardemment. On a vu les pièges à éviter qui sont là tout au long de notre route alors que nous marchons dans les voies du Seigneur, à quel point ils sont nombreux ces pièges-là et à quel point l'ennemi ne se donne de cesse et de repos. Puisse le Seigneur bénir les siens, puisse le Seigneur les garder et les affermir dans sa grâce puissante en Christ Jésus. Amen.